Depuis quelques années, le podcast, la radio en ligne à la demande, a le vent sérieusement en poupe. Pratiqué en solo, entre amis, en amateur ou en pro, cette pratique de la radio 2.0, peut-être, touche à des formes variées comme la fiction, le témoignage et bien d'autres formes encore. Certains de ces podcasts, pas forcément les meilleurs si on me demande mon humble avis, font beaucoup, beaucoup d'écoutes, plus d'un million en France pour les plus écoutés. On vous propose de rencontrer l'un des rares studios de podcast dans la région Hauts-de-France, le studio Flamboyance.
Moi, c'est Michel Rommel, je suis le co-directeur de Studio Flamboyance.
Et moi, c'est Louis Durufflet, et donc l'autre co-directeur du Studio Flamboyance.
Comment ça a commencé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de Flamboyance ?
C'est une belle histoire.
Oui, c'est une longue histoire. En réalité, on travaille tous les deux dans des domaines complètement différents. Moi, je travaillais dans le spectacle vivant à Roubaix, et Michel travaillait dans une banque à Toronto, au Canada. Et on était à un moment un peu charnière de notre vie. Le Covid est arrivé, on est pour projet de partir à l'étranger, mais le Covid est arrivé. Et donc, on a commencé à mener un podcast à deux, à l'origine pour se créer un rendez-vous régulier par rapport à ça. Et de fil en aiguille, moi j'ai commencé à faire du documentaire audio, où je trouvais que c'était un support qui était intéressant, et pour la première fois de ma vie j'avais du temps de faire des choses comme ça. J'ai découvert vraiment le son et le travail de son aussi comme ça, et j'ai eu une première proposition de contrat avec le ministère de la Culture à ce moment-là, de créer une commande quoi, à la suite de ce premier documentaire qui était sur le matrimoine, donc ce qu'on hérite de nos mères. Et je me suis dit, étant donné que les frontières n'avaient pas rouvertes et que le projet de voyage était toujours en suspens, je me suis dit que je pouvais peut-être en faire une activité de travail quoi, régulière. Et donc j'ai proposé à Michel de me rejoindre sur le projet, et c'était il y a 2 ans à peu près.
J'étais au Canada, et le projet de Studio Flamboyance, c'est quand même quelque chose que je suivais du coup depuis le début, parce qu'on animait toujours ce podcast à deux. Un podcast sur la pop culture, et Louis m'a donc proposé de le rejoindre parce qu'il m'a dit qu'il est arrivé un moment où pour se développer il avait besoin de mains supplémentaires. Donc j'ai pris mon avion, mes bagages, et je suis revenu en France.
Complètement autodidacte alors ?
Complètement autodidacte. On avait fait quand même beaucoup de musique avant, musique acoustique chacun, mais je suis pianiste, flûtiste. Et un peu du coup de musique amplifiée et donc travail de son par rapport à ça, mais ça restait assez succinct. Et le vrai travail, d'ailleurs, ce sera peut-être à retirer, mais on n'est pas des experts du son, loin de là. Par contre, on a un regard assez aiguisé, je pense, sur l'écriture, et notamment l'écriture au montage qui peut se produire. C'est là où il y a un truc vraiment intéressant qui se passe, je trouve, et moi, c'est plutôt là où je m'amuse. Après, sur le son, on a un stade où on est content et on comprend à peu près ce qu'on fait, mais on pourrait progresser beaucoup plus. Mais autodidacte, ouais.
Après, je trouve qu'on a quand même réussi à développer une oreille et des techniques pour justement proposer un contenu qui soit un standard professionnel en termes de qualité sonore. Mais oui, ça voulait dire passer beaucoup d'heures à lire beaucoup de tutoriels, à tester beaucoup de choses, à faire beaucoup d'erreurs. Mais on arrive quand même à se débrouiller.
Le studio Flamboyance propose des podcasts originaux, décalés et savants pour les organismes publics, touristiques et culturels. Créez le contenu audio de vos rêves. Nous concevons le podcast avec vous pour être sûr d'être au plus proche de vos besoins.
Nous enregistrons le podcast en vous faisant intervenir ou par notre catalogue de voix off de qualité. Ensuite, nous immergeons vos futurs auditeurs dans une ambiance sonore sur mesure.
Alors comment ça marche actuellement ? Est-ce que vous êtes un média ? Est-ce que vous marchez à la commande, au feeling ? Comment se fait un petit peu le choix des sujets que vous abordez dans les podcasts ?
Aujourd'hui, tout se fait à la commande. En tout cas, sur l'activité économique, se fait uniquement à la commande. C'est-à-dire qu'on démarche des organisations publiques. On travaille, nous, qu'avec des organismes publics. Pour le coup, c'est un choix qu'on a fait parce que ça permet de faire des sons qui ont du sens. Aussi, elle est dans un autre rapport qui n'est pas nécessairement et uniquement économique, mais d'arriver dans autre chose et qui est vraiment dans l'ordre du service au public. Cela dit, on a quand même un ensemble d'autres activités de création de podcasts qui, eux, sont pas de la commande et qui sont juste sur notre temps libre pour le plaisir de créer du documentaire, du son, des contenus réguliers. ou pas, qu'on fait, et plus comme un média, mais sans ligne éditoriale, c'est plutôt pour nous faire plaisir, en parallèle.
Après, on forme aussi à la création et à la production de podcasts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec aussi des organismes publics. Et on intervient aussi en école de communication et d'audiovisuel.
Un petit mot sur le blaze, sur flamboyance. D'où ça vient, en fait, flamboyance?
Eh ben, c'est trop cool de flamboyer, d'être comme des petits flambeaux un peu partout qui s'allument et puis qui durent pas très longtemps et ça s'éteint et puis il y en a d'autres qui durent plus longtemps. L'idée c'était ça, et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'homosexualité ou en tout cas de valeurs LGBT qui sont importantes pour nous, et flamboyance ça renvoyait aussi à ça et on trouvait que c'était assez chouette. On a aussi un très joli logo avec un soleil où du coup c'est rayonnant et solaire et on se retrouvait bien à cet endroit-là.
Pourquoi le son? Pourquoi le podcast?
Alors pourquoi le son? Louis et moi on est tous les deux très sensibles je pense au son et à la musique depuis notre enfance. C'est un sujet qui nous a aussi rapprochés dans notre amitié. Et c'est Louis qui avait fait un test il y a quelques années sur ses compétences, une espèce de bilan de compétences psychologiques et tout ça. Et ce test avait révélé justement qu'il avait une grande sensibilité au son. Aussi, comme il l'expliquait, notre premier projet de voyage étant tombé à l'eau, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut créer à distance, facilement, avec peu de matériel. Et c'était le moment du boom du podcast. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, en fait, le son, c'est un peu devenu une évidence. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Ouais.
Aussi, je trouve que c'est une matière qui est assez belle, notamment dans du documentaire, dans l'interview, d'aller chercher des gens, d'aller chercher ce qu'ils racontent. C'est plutôt une surprise, mais qui a confirmé l'intérêt que moi, je trouvais dans le son et qu'on partage aussi au sein du studio Flamboyance. Avec un micro, les gens se révèlent différemment qu'avec un entretien écrit ou qu'avec une caméra, où il y a une vraie distance qui se crée à la caméra. Avec le micro, la distance, elle est quand même réduite. Il y a une proximité qui se crée, il y a une confiance qui existe et qui permet d'avoir une matière de travail de ce son-là qui est très puissante, je trouve, et qui est qu'on peut sublimer ou transformer ou amener à des endroits un peu inattendus par du travail de montage. Et je trouve que c'est en tout cas ça s'est vite confirmé dans le début du travail, et donc on a complètement continué dedans, quoi.
Si je peux rajouter une dernière chose, je trouve que la puissance du son, c'est vraiment sa capacité à évoquer des émotions puissantes, un peu qui peuvent dépasser les gens. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'intéresse personnellement beaucoup dans le travail du son.
On va parler de quelques podcasts que vous avez produits, et notamment, donc, tu en as parlé un petit peu, cette série qui en a cette deuxième saison qui s'appelle Matrimoine. Hein. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un petit peu le concept et puis nous dire qui vous êtes allé interviewer pour cette série?
Alors, le matrimoine, c'est un concept qui vient des milieux féministes, qui est une reprise d'un terme assez ancien du Moyen Âge, qui littéralement signifiait ce qu'on héritait de ses mères, et le patrimoine était ce qu'on héritait de nos pères, qui a été transformé. Le patrimoine, du coup, le sens est transformé dans ce qu'on hérite de nos pères culturels, et donc il y avait l'idée de réhabiliter cette notion de matrimoine pour dire ce qu'on hérite aussi de nos mères d'un point de vue culturel, historique, matrimonial. Et c'est un sujet auquel moi j'avais été sensibilisé quand je travaillais dans le spectacle vivant, parce que c'est porté notamment par des associations comme HF Hauts-de-France, où on avait mené et accompagné des projets autour du matrimoine dans ce cadre-là. C'est une thématique à laquelle j'étais sensible et j'avais envie de la prendre vraiment au pied de la lettre de ce qu'on hérite de nos mères. Et donc les deux saisons aujourd'hui sont assez différentes. La première, c'est vraiment une série documentaire sur ce qu'on hérite de nos mères entre Roubaix et Valenciennes. Et donc je suis allé chercher tout un ensemble de témoignages de femmes et d'hommes au foyer, de gens qui ont travaillé avec des femmes, de gens qui ont vécu avec des femmes, ces mères, mais aussi des tantes, les ouvrières aînées, les aînés ES, et un peu leur poser cette question simplement de qu'est-ce qu'il ou elle avait hérité de ça pour faire cette série. Et donc on aborde un ensemble de sujets finalement assez vastes. La deuxième saison était un peu plus resserrée autour de témoignages choisis. Donc je suis allé chercher des gens qui font aujourd'hui le matrimoine, qui feront probablement partie du matrimoine futur. Et donc il y a notamment Jeanne Champagne qui est metteuse en scène, Reine Pratt qui avait écrit les rapports sur l'inégalité professionnelle dans le secteur culturel, qui avait beaucoup permis à la question d'avancer, et Aurore Evin qui est une chercheuse aujourd'hui et qui elle réhabite complètement un ensemble de termes et qui a beaucoup travaillé sur cette notion de matrimoine.
Pour démarrer en trombe cette nouvelle formule, nous sommes partis à la rencontre de Reine Pratt, célèbre dans les milieux militants pour avoir écrit les rapports de 2006 et 2009 sur les égalités professionnelles entre les femmes et les hommes pour le ministère de la Culture.
Comme le dit le journal Le Monde alors, ces rapports font l'effet d'une bombe. Les hommes occupent 58 à 100% des postes de direction. Les coûts de production passent du simple au double si le spectacle est mis en scène par une femme ou par un homme.
Reine Pratt n'a depuis cessé de montrer les inégalités, de se rendre active pour que la lutte se poursuive, tant et si bien qu'aujourd'hui, elle semble incontournable.
Sans plus tarder, laissons-lui la parole. Bonne écoute.
Je m'appelle Reine Pratt, je suis agrégée de lettres et j'ai travaillé essentiellement dans le domaine des politiques culturelles, au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères, puisque j'ai dirigé l'Institut français de Marrakech, à la mairie de Marseille, où j'ai été conseillère artistique. Et puis, j'ai dirigé l'association Arcanal, qui dépendait du CNC, et qui était chargée de la diffusion, de la production d'audiovisuel sur les arts du spectacle, avec ce qui était à l'époque l'A7, qui est devenu Arte. Je suis la fille d'une femme qui, quand elle avait 10 ans, avait décidé qu'elle aurait une fille blonde avec des yeux bleus, qu'elle appellerait Reine, et qu'elle destinait à réaliser tout ce qui lui avait été interdit parce qu'elle était une fille. Elle avait 10 ans, elle n'allait pas à l'école, parce que son père avait cru possible d'aller vivre dans un petit village de pêcheurs, dans les calanques de Marseille, d'où il fallait aller à pied jusqu'à la ville, et donc c'était pas possible qu'elle aille à l'école, et il avait décidé que comme il n'avait que des filles, c'était pas très grave, et qu'elles allaient se marier et faire des enfants, et qu'elles n'avaient pas besoin de faire des études. Et cette petite fille, Gabrielle Robert, ça l'a mise très en colère. Et elle a été en colère longtemps, mais 20 ans plus tard, elle a fabriqué une petite fille. Elle a trouvé un homme très très gentil pour faire ça. Et voilà, et donc je suis arrivée dans de très bonnes conditions.
Autre podcast produit par Flamboyance, Quartier mineur. Alors là, on est complètement dans un autre domaine. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous présenter ce podcast ?
Quartier mineur, je vais répondre parce que c'est un podcast que j'ai fait aussi, qui pour le coup est un podcast de commande avec un artiste qui s'appelle Tony Melville, qui est un artiste lillois, musicien qui devait emmener un de ses spectacles en prison à Metz. Finalement le projet a pas mal changé, on s'est retrouvé à deux, lui musicien et moi avec mes micros, à passer deux jours avec les adolescents emprisonnés du quartier pénitentiaire de Metz, du centre pénitentiaire de Metz, donc le quartier mineur, celui où il y a les mineurs. Et on n'avait pas, étant donné que le projet a changé un peu à la dernière minute, on n'a pas beaucoup eu le temps de se retourner, et donc on a vraiment passé deux jours pleins avec eux, à juste jouer de la musique et les questionner sur la prison, comment ils le vivent, ça veut dire quoi pour eux. Et donc on s'est retrouvé avec une dizaine d'heures de rush un peu brut, et ça aboutit en un one shot de 20 minutes, assez orienté autour de la musique et du son quand même, du travail du son, ça veut dire c'est quoi aussi le son de la prison. C'était une vraie découverte pour moi, et c'est un environnement sonore vraiment particulier. Et puis, on a essayé de maintenir ce fil qui ne tombe pas dans le misérabilisme, ni dans une justice implacable, et d'essayer de comprendre. Et finalement, on se rend compte que ce sont aussi des ados en prison et que ça reste des adolescents, malgré tout, mais qui sont aussi en prison. Et on a essayé comme ça de maintenir ce fil pour donner une espèce de panorama de ce qu'on avait récolté pendant ces 10 heures d'entretien avec eux.
C'est qu'un temps, tout ça. Hein. C'est qu'un petit temps. On avance au fur et à mesure. Hein. La prison... Les conneries, tout ça, c'est bien un moment, mais après, tu te rends vite compte, ça va perdre. Hein. Tu perds beaucoup de temps et t'avances pas au final. C'est-à-dire que tu reviens au même point à chaque fois, ça rend fou. Même si les gens dehors, ils disent, ouais, vendez de la drogue, tout ça, ça paye. Moi, je vous le dis, ça paye pas du tout. Je vous jure, j'ai vendu de la drogue pendant des années. Hein. Ça a jamais payé. Hein. c'est là qu'il s'appelle. C'est fini l'époque de Pablo Escobar, tout ça, Bonnie and Clyde, tout ça. Tu vas plus braquer maintenant.
L'acoustique ici, c'est comme dans une piscine. Tout résonne. Et on entend en permanence des cris, des insultes, des portes qui claquent. Et apparemment, ça rend fou, à force.
J'en ai du bruit dans la prison. Et même la nuit, il y a du bruit, mais je veux dire, moins de bruit, quoi. On peut plus parler. Après, des fois, ouais, ça crie et tout. Ça dépend avec les personnes. À partir de 17h, je me sens bien. On commence à faire nuit ici. Enfin, je me sens bien, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, je me sens un peu mieux. La nuit, ça part en bordel, normalement.
C'est pas en bordel, ça veut dire quoi, ça part en bordel?
Là, c'est la voix de Louis. Des fois, c'est lui qui mène les entretiens, des fois, c'est moi. Enfin, on le fait un peu au feeling, en fait.
Genre, on crie tous et tout, on se défoule tous. Non, mais il reste 4 heures dans une cellule.
Moi, je dirais 4 heures, c'est bien. J'aimerais bien rester 4 heures ici.
Complètement autre chose à nouveau. Je voulais aborder avec vous deux autres séries. Dormir et se ressourcer. Alors là aussi, dormir, c'est quoi? C'est une commande publique aussi? Comment ça se passe là?
Dormir, c'est pas du tout une commande publique. C'est exactement le genre de podcast qu'on fait à côté pour le plaisir, sur lequel on gagne pas un copec, mais qu'on fait parce qu'on pense que c'est important de le faire. Le principe de dormir, c'est vraiment basique, hein. C'est des gens que j'interview sur leur rapport au sommeil, donc parfois il y a des thématiques qui se dégagent et parfois ça reste assez général. L'idée étant que je trouvais que le sommeil était un des domaines dont la parole s'était pas encore libérée, alors qu'on parle aujourd'hui de sexualité, de féminisme, de problèmes raciaux, toutes ces luttes-là ont pris des formes vocales nouvelles ces dernières années. Et le sommeil, il y a apparemment deux luttes particulières, mais c'est de rester dans un domaine de l'intime, et je trouve qu'on n'en parle pas. Et c'est notamment en parlant autour de moi du fait que je pensais faire ce sujet, où les gens se sont mis à me raconter des trucs que j'avais jamais entendus, et parfois des choses qui avaient une importance énorme pour eux, et que j'ignorais complètement, et pourtant c'est les gens qui sont vraiment très proches de moi, et voilà, ça m'a confirmé le fait qu'on avait besoin d'en parler. Et donc c'est simplement une série, voilà, il y a à peu près tous les mois, quand c'est possible, un épisode qui sort de ça, de gens que j'interview sur leur rapport au sommeil, pour le plaisir de le faire et d'augmenter cette banque subjective de sommeil.
Juste des gens qui dorment ou aussi des spécialistes du sommeil? Comment ça se passe?
Bah, on est tous des dormeurs déjà, c'est notre condition. Notre condition animale nous impose de dormir. Mais non, ce sont que des gens qui dorment. J'ai interviewé aucun spécialiste, que justement je voulais pas ni scientifiser ni médicaliser la question. Parce qu'il y a quand même deux discours dominants dans le sommeil. Il y a le discours productiviste et capitaliste, il faut réduire son sommeil, ou il faut le contrôler, le maîtriser, il faut être capable de se lever le matin, il faut être capable de se coucher, voire de réduire. On vante les personnes qui savent dormir 4 heures par nuit parce que ce sont, je sais pas, des bons patrons ou des bons chefs d'État. Enfin, voilà, il y a tout un imaginaire qui est autour de ça et de leur sommeil. Et à l'inverse, il y a le discours qui est très moralisateur, faussement médical, sur... pour dormir, il faut ne pas regarder d'écran, il faut pas boire de café, il faut pas faire ceci. C'est beaucoup d'injonctions que beaucoup de gens ont du mal à respecter, notamment les écrans. 100% des gens que j'ai interviewés regardent leur téléphone avant d'aller se coucher. Donc ça veut bien dire que l'injonction ne fonctionne pas, parce que sinon il y en aurait au moins un sur la petite quinzaine de personnes que j'ai interviewées qui l'auraient pas regardé. Donc je voulais vraiment rester à cet endroit subjectif de soi-même et son propre sommeil, comment est-ce qu'on le vit, et rester à cet endroit-là.
Ça fait 2 ans et demi que, dans 3 ans que je dors pas. Donc, enfin, quand je dors pas, je dors quand même, mais disons que c'est le max que je fasse, c'est 2 heures d'un seul coup. Après, je me réveille, après, je me rendors, je me réveille, et ça fait, en fait, c'est toujours coupé. Et en fait, c'est usant. C'est usant. Et donc, à cause de tout ça, il y a un moment où physiquement, ça s'est ressenti. Je suis allée voir le médecin et on a mis en place, en fait, une médication pour m'aider à dormir. Donc, mon rituel maintenant, c'est 1 heure avant de m'endormir, je prends ce qu'il m'a donné en micro-dosé. C'est vraiment pour dire de me calmer. C'est un somnifère aussi et un anxiolytique. Et je me pose. Et aussi de savoir que je prends ça, je sais que je vais m'endormir et ça me calme énormément. Par contre, dans les moments de stress intense, mon corps arrive à ne pas prendre en considération les médicaments. Ce qui fait que je suis dans le coltard pendant au moins 2 jours. Un effet gueule de bois intense, mais par manque de sommeil et le fait que les médicaments sont là à essayer de forcer et que mon corps fait pareil. C'est un bras de fer, en fait. Mais sinon, cette nuit, j'ai bien dormi. Écoute, j'ai dormi 5 heures et ça va.
Un mot aussi sur se ressourcer, alors, oui. Peut-être ?
Alors, se ressourcer, c'est un podcast donc plus orienté bien-être mental. C'est parti d'un projet personnel. Avant de me lancer dans le podcast, j'avais comme premier projet de plus me lancer dans le domaine de la santé mentale, parce qu'au Canada, où je vivais depuis plusieurs années, j'avais fait une petite formation pour, par la parole, aider les gens qui ont vécu des traumatismes. Et je me suis rendu compte que lancer une nouvelle activité comme ça en France, c'était compliqué. Et se ressourcer, c'était une façon de lier les deux projets ensemble et donc de créer une bulle de bien-être et de bienveillance dans lesquelles les gens puissent se réfugier. Voilà, donc c'était vraiment ça mon objectif avec se ressourcer, proposer des conseils simples et des réflexions simples sur comment reprendre contrôle sur son bien-être mental.
Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
Se ressourcer. Épisode 9. Faire une pause. Bonjour et bienvenue dans Se ressourcer, ton podcast bien-être qui te donne des conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Je m'appelle Michel Rommel et j'anime cette émission. J'espère que tu passeras un moment agréable en l'écoutant. Comme d'habitude, je vais commencer en t'invitant à faire un petit bilan de ton état actuel. Demande-toi si tu as assez dormi, si tu as faim, soif, ou si tu as besoin de passer aux toilettes, ou encore si tu es dans une position confortable. Essaie d'y répondre spontanément et sans jugement. On fait un simple état des lieux. Je te laisse encore quelques instants pour y réfléchir.
Suite de notre entretien avec Michel et Louis du studio de podcast Flamboyance.
Vous avez parlé du boom des podcasts. Comment vous expliquez un petit peu ce nouvel attrait pour la radio en ligne ?
Pour moi, c'est majoritairement une question d'usage. C'est que avec le il y a une question de format où le fait de créer des formats complètement en ligne permet de se libérer de contraintes horaires, de grilles horaires auxquelles peuvent être soumises la plupart des radios. Et ensuite, il y a une question d'usage où le fait de pouvoir l'écouter sur son téléphone facilement. Écouter la bande FM sur son téléphone, c'est difficile. C'est parfois passé par Internet, mais c'est difficile d'écouter en décalé, etc. Le podcast offre une liberté d'écoute où voilà, on télécharge, on télécharge son téléphone et on y a accès. Et je pense que c'est ça qui fait que le podcast fonctionne. En tout cas, moi, je l'analyse comme ça.
Moi, je pense aussi que une des forces du podcast, c'est que c'est vraiment le format de l'intimité. Et que pour beaucoup de monde, surtout au moment du Covid, il y avait un petit peu ce côté d'aller chercher les confessions de gens, d'entendre un petit peu des confessions dans ses oreilles. Il y a un rapport intime qui se crée, je pense, entre les auditeurs et les podcasteurs et les podcasteuses. Podcastrice, pardon. et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a plu dans les premiers podcasts que j'ai écoutés.
Du coup, boum, vous arrivez, bam. faut se faire sa place. C'est un peu la jungle. Si vous voulez gagner de l'argent, est-ce qu'il y a un modèle économique pour les podcasts ? Comment ça se passe un peu ?
Alors, il y a différents modèles économiques. Ce dont on va entendre souvent parler, c'est un peu le modèle économique qui repose sur la publicité, un peu à la YouTube en fait, où en fonction du nombre d'écoutes, on va pouvoir percevoir une certaine somme si on place des publicités dans son podcast. Après, il y a aussi plus, nous, le modèle économique que nous avons choisi, à la commande. Voilà, parce qu'on voulait aussi garder une certaine liberté de ton dans les podcasts que nous produisions et donc de ne pas tout de suite s'associer forcément à des annonceurs publicités ou des commanditaires. C'était en tout cas pour ça qu'on a choisi ce modèle économique.
Oui, moi je suis un assez farouche opposant à la publicité en général, donc je voulais pas du tout mettre de publicité dans les podcasts. Partenariat, pourquoi pas, c'est aussi un format qui existe. De créer un podcast en partenariat. Le modèle économique de la publicité dans le podcast a plusieurs défauts aussi. C'est que déjà, il faut avoir beaucoup d'écoute, il faut les maintenir, donc ça nécessite en fait de formater son contenu et de se tenir à ça et de jouer le jeu, enfin un jeu de reconnaissance, etc., qu'on n'avait pas envie de jouer nous. Et voilà, la pression de service et la commande permet une plus grande liberté. C'est pas forcément plus difficile d'ailleurs, je pense. Et c'est un format qui mériterait, c'est un modèle économique en tout cas qui mériterait d'être mieux reconnu. Ce qu'on attend aussi dans le podcast, ce qui n'existe pas beaucoup aujourd'hui, c'est du financement public ou du financement privé, mais direct, qui ne soit pas de la commande, sur la création. Ça a commencé timidement il y a quelques années par la SACD. Le ministère de la Culture a tenté un fonds par rapport à ça. Il y a quelques... Picanovo tente aussi des choses qui ne sont pas purement sonores. Il faut qu'il y ait une production audiovisuelle, donc visuelle aussi, dedans, mais à laquelle l'audio peut avoir une part belle, qui existe. Mais ça manquerait, et je pense que ça permettrait d'avoir des contenus qui sont aussi plus riches et vraiment tournés vers la créativité et sortir un peu de la production, qui a tendance quand même parfois à se ressembler, je trouve.
Bonjour, je suis Louis Duruflet et je vous présente Femmes et archéologues, quand l'archéologie se raconte au féminin. Ce podcast est réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France et produit par le studio Flamboyance. Découvrons ensemble trois générations de femmes archéologues. Germaine Lemans, chercheure honoraire au CNRS, Françoise Bostine, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Camille Calouin, céramologue à l'INRAP. Bonne écoute.
Je suis Germaine Lemans, j'ai été chercheure CNRS et j'ai travaillé toute ma vie sur la période protohistorique et plus particulièrement sur la deuxième, sur la partie de proto-histoire récente, c'est-à-dire sur l'âge du fer.
Bonjour, moi je m'appelle Françoise Bostine, je suis aujourd'hui professeure à l'Université de Paris 1, je suis spécialiste du néolithique et plus particulièrement au sein de cette vaste période de toutes les industries lithiques dans toutes leurs dimensions technologiques, circulation et aussi spécialisation des activités artisanales.
Quel rapport vous avez, vous, parce que vous diffusez principalement par les plateformes de streaming, et quelles difficultés ou quels problèmes ça pose aussi
Alors, on diffuse évidemment sur toutes les plateformes de streaming qui existent et tous les réseaux de diffusion de podcasts au sens large, qui ne sont pas forcément des plateformes musicales par ailleurs. Alors, la multiplicité peut avoir du bon parfois, parce que ça évite aussi, comme YouTube, de se conformer à un contenu très unique pour que ça monte dans le référencement. Et là, je trouve que sur YouTube, ça a vraiment des effets délétères. La multiplicité des plateformes permet quand même d'avoir du mal à référencer son podcast facilement sur l'ensemble des plateformes. Et donc, à un moment donné, ça participe un peu à ça. Malgré tout, il y a quand même de la publicité qui est aussi imposée à l'ensemble des auditeurs ou contre un abonnement, mais qui est payant, auquel cas les créateurs RIS de podcast ne touchent aucun argent de ces abonnements-là, contrairement à la musique. Ou à la publicité qui est surimposée en plus, sur Spotify par exemple, il y a la publicité supplémentaire qui est mise par l'usage gratuit de la plateforme. Moi ça me gêne, et personnellement il existe aussi des plateformes de streaming de podcasts assez anciennes qui permettent de lire le contenu par rapport à ça. Il y a aussi des hébergeurs associatifs qui existent en France qui permettent d'héberger son contenu quelque part et de le diffuser, y compris en dehors des réseaux Spotify ou Deezer par exemple. Voilà. Après, on n'a jamais diffusé en bande FM. Peut-être que c'est quelque chose. Il y a eu quand même des contenus qui sont passés, qui, notamment Quartier Mineur, qui a été diffusé sur une radio locale à côté de Metz. Et donc, on a commencé, mais ça s'est pas encore beaucoup fait. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un ensemble de contraintes administratives que je maîtrise pas très bien. pour le faire, l'avantage des plateformes de streaming, c'est que c'est quand même très facile. Il suffit de mettre sur un hébergeur qu'on peut trouver en plus gratuitement ou de manière associative, voire financé par service public comme les audioblogs d'Arte Radio, pour que ça fonctionne quasiment instantanément. Et donc c'est aussi cette facilité d'usage qui nous a plu.
Bah, peut-être une dernière question, c'est sur vos prochains projets. Est-ce qu'il y a des choses sur le feu là pour en parler
ou...
Ouais, il y a pas mal de choses sur le feu, des trucs dont on peut pas forcément parler. Il y a aussi des podcasts qui sont produits mais dont on attend la diffusion. Donc j'oserais pas dire le nom parce que je sais pas si je peux en parler ou pas. Par contre, sur les sujets sur lesquels on est plus libre, il y a la suite de Dormir qui se prépare, sur lequel il y a eu un gros trou, ça a repris un peu. Et là, on va vraiment le reprendre. Enfin, moi, j'ai très envie de le reprendre. Saison 3 de Matrimoine aussi, que je suis en train de préparer, autour d'une autrice féministe des années 70 qui s'appelle Nathalie Magnan, dont l'œuvre est pas très connue, alors qu'elle a quand même beaucoup influencé l'ensemble du cyberféminisme en Europe et en France. Et je l'ai découverte il y a pas très longtemps, et je trouve que son propos est fascinant, et j'en avais jamais entendu parler. Elle est même pas très connue en France, et j'aimerais bien du coup valoriser son travail dans une saison 3, et donc aussi discuter avec des gens qui l'ont rencontrée, voire qui ont vécu avec. C'est un peu moi mes projets sur le coup.
Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode numéro 11 de notre super podcast Popcorn Aigre-Doux.
Coucou les loulous et bienvenue à nouveau. Popcorn Aigre-Doux, c'est donc cette émission où deux amis discutent de deux films. On compare cette fois-ci We Need to Talk About Kevin de Lynda Ramsey et Mommy de Xavier Dolan sur le thème de relations compliquées entre mère et fils. Et donc il y a eu la première partie de l'épisode où on faisait tout notre déballage autour de ces films de manière sans divulgâcher. Et maintenant, on va se permettre de divulgâcher comme des gros porcs. Et donc, si jamais vous n'avez pas vu les films, c'est pas grave, parce qu'on va expliquer ce dont on parle. Mais si jamais vous voulez ne pas vous faire divulgâcher, écoutez la première partie, regardez les films et rejoignez-nous pour cet épisode spoiler.
Spoiler alert.
Spoiler full.
Spoiler full, c'est ça. Divulga plein. Ouais, il y a juste un truc que je voulais dire parce que c'est fait aussi partie de mes influences pour le coup en termes de podcast. Et le gros boom du podcast, c'est 2015-2017 aux États-Unis, 2017-2018 en France, le premier boom où il y a commencé à avoir vraiment des modèles économiques qui se sont formés. C'est malgré tout, ça faisait quand même plus de 10 ans déjà que le podcast existait quasiment. C'est 2007-2008 et moi j'en écoute, je pense, depuis 2011 des podcasts. Et il y a une scène amateur qui est encore très vivace, notamment dans francophone, qui est vraiment présente et qui cherche pas vraiment ni à monétiser par la publicité, ni à avoir de modèles économiques particuliers, qui font ça par passion. Le but, c'est de créer du son. Et moi, ça a été aussi des grandes sources d'inspiration, et c'est des gens d'ailleurs qu'on fréquente, qu'on côtoie, avec qui on échange pas mal, et je pense que c'est intéressant. Et on essaie aussi, en tout cas, de les inclure dans la manière dont on envisage l'écosystème du podcast aujourd'hui. Alors que il y a quand même une tendance générale de l'écosystème économique du podcast en France de faire oublier cette histoire-là du podcast. Alors je pense qu'elle est intéressante et elle est aussi différente de l'histoire de la radio. En tout cas, elle s'est construite aussi à côté, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y a des ponts évidemment qui existent, mais il y a aussi des différences, et je trouve que c'est intéressant. Et il y a aussi des précurseurs du format podcast à proprement parler qui continuent encore en faire aujourd'hui et qui font du podcast depuis plus de 10 ans, quoi. Et je trouve ça assez joyeux. Et voilà, je voulais le dire.
Alors par exemple, toi, c'est quoi tes influences, les trucs où tu dis « Ah, c'est ça que je veux faire ».
En fait, c'est super varié. Il y a même des trucs qui, du coup, n'existent plus du tout. Mais je sais pas, il y a tout le réseau Podcut, par exemple, qui, eux, font du podcast de manière complètement amateur. On a pas mal fait intervenu dans leur podcast, ou fait de podcast avec eux, ou échangé, parce que il y a l'association Bad Geek à Rennes qui font le podcast Pod Rennes, par exemple, et qui a fêté ses 10 ans, d'ailleurs, l'année dernière, et qui, là, envisage de faire plusieurs autres festivals Et Bad Geek, ouais, par exemple, c'est une assez bonne influence, en plus des créateurs un peu classiques de j'allais dire François Pérusse, c'est pas du tout François Pérusse, c'est le mec qui fait les 2 minutes du peuple, mais j'ai plus du tout les noms, je me suis réveillé un peu trop tôt ce matin, je suis désolé. Mais ils sont là, et je ne les oublie pas dans mon cœur, même si je n'ai plus leur nom. François Perrache, voilà, c'est le radio. François Perrache, notamment.
Louis Duruflet et Michel Rommel du studio de podcast Flamboyance, qui a démarré du côté de Valenciennes, aujourd'hui installé à la Pleine Image à Tourcoing. Vous pouvez écouter tous leurs podcasts via le site flamboyance au pluriel.fr.